Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 168. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mon collègue
Rémi Fréchette. Ben c'est tout. Yo Pascal, qu'est-ce qui se passe?
Ben, il est encore en voyage, là. Il y a notamment aussi son film qui circule beaucoup, les faux tatouages, donc on est très content pour lui.
Même nous, on le voit plus, en fait, comme il est rendu trop big, là. Il ignore pour être vu, il est complètement off, là.
C'est ça, il est rendu avec ses amis d'Hollywood, là, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Avant de commencer, toute chose, t'avais un petit remerciement que tu voulais faire.
Ah oui, je veux juste dire merci à Didier de Belgique que j'avais rencontré. J'en avais déjà parlé, puis j'étais allé au pif, je l'ai rencontré. Je dois avoir parlé de la série Striptease, parce qu'il m'a envoyé par la poste les volumes 1, 2, 3 de Striptease. Fait que j'ai comme... c'est pas de la porn, mais en passant, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme une série... c'est une série documentaire sur des personnages assez éclatés. Puis il m'a envoyé ça par la poste pour que je sois à jour dans mon Striptease.
Ça fait, ben oui, ça fait des tellement bonne là-dedans.
Ouais, c'est ça. Oh god. Hey, j'ai pas revu ça, ce film-là.
J'ai jamais vu, en fait.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je sais même pas si je l'ai vu en entier. C'est le genre de film que il passait à TQS le soir quand j'étais jeune. Puis, tu sais, c'était comme un peu interdit parce que ça s'appelait Striptease, là. Puis là, t'en pognes un bout parce que t'as 13 ans pis t'as des hormones dans le tapis.
Moi, j'ai vu la pochette VHS souvent, là, comme aux vidéos.
Ouais. Bon, ben, c'est ça. Fait que merci Didier, c'est vraiment apprécié comme petit cadeau, là. On va déguster ça avec plaisir.
Super. Sinon, qui dit novembre, Rémi Fréchette, dit festival de cinéma. C'est comme une nouvelle maxime que je viens d'inventer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a les sommets de l'animation qui viennent de commencer aujourd'hui. Et tous les salles cinémathèques, donc c'est beaucoup de courts-métrages, également des longs-métrages. On vous invite à aller voir tous les détails sur le site de la Cinémathèque québécoise, parce que moi, je n'aurai pas beaucoup de temps pour y aller. Je suis pas mal occupé ces temps-ci, en fait. Et il y a également Imagination, la 30e édition de ce festival qui commence demain, donc à l'heure où on enregistre, le 23 novembre. Je sais pas trop, en fait, quand je vais trouver le temps de publier ce podcast, parce que le 3e festival de novembre qui a lieu en ce moment, c'est Plein Écran.
Ah, c'est quoi ça, Plein Écran?
Ben, Plein Écran, c'est un festival de films, écoute, c'est du court-métrage québécois et français cette année, pour la 2e édition, qui a lieu entièrement sur Facebook. Donc c'est gratuit, il faut simplement aller liker la page de Plein Écran. Et en ce moment même, les trois premiers films sont sortis, dont notre film d'ouverture, La course navette. En fin de semaine, c'est avec le week-end du cours français, donc une sélection, on a donné carte blanche au festival Clermont-Ferrand, qui est quand même, tu sais, un peu le Cannes du court-métrage, si on veut, c'est un des plus gros festivals au monde. Et le 2 décembre, il y a une classe de maître de Robert Morin, qui sera donnée au Monument National à 16h. Les entrées sont gratuites, place limitée, premier arrivé, premier servi. Ça va être rediffusé sur Facebook Live. La même journée, en fait, on présente trois de ses premiers courts-métrages. Puis ça, c'est quand même assez cool, hein, parce que, tu sais, c'est l'Aquab Vidéo, dans le fond, qui ont numérisé ces cours-là juste pour nous. Parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient comme pas trop disponibles, qu'ils étaient durs à trouver dans une mauvaise qualité. Donc là, bon, je te mentirais pas, là, tu sais, la qualité est pas vargeuse, parce qu'on parle quand même de... C'est des films tournés en vidéo du début des années 80.
Et moi, t'as toute mon attention, Paul. des vieux formats, ça va, là.
Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas non plus les moyens de faire une vraie restauration comme image par image. Puis, tu sais, peut-être éventuellement quand il y aura une édition Criterion des œuvres de Morin.
Mais pour l'instant. Ouais, mais en même temps, du vieux vidéo comme ça, c'est tellement. L'esthétique participe aussi au propos, là, souvent, là. C'est comme ça appuie le propos de l'avoir en qualité un peu crappy, là. Je sais pas, là, je pense que ça fait partie du deal, là, tu sais.
Ouais. Puis d'ailleurs, je vous invite vraiment, là, moi, je pense qu'il y a une révélation, là, c'est « Ma richesse a causé mes privations ». C'est un des premiers cours de Robert Morin, puis c'est comme un documentaire sur des culturistes. C'est très homoérotique, c'est très bizarre, et c'est vraiment génial, en fait. Tu sais, on est plus proche de, mettons, du Werner Herzog ou du Denis Côté que du reportage TQS, là, tu sais. Donc ça, c'est...
reportage TQS.
Non.
Caméra 88, genre, là.
Ouais, c'est ça.
Le striptease québécois, là.
Ben, un peu peut-être, ouais, effectivement. Et donc, c'est ça. Et tout plein d'autres bons courts-métrages sur la page de plein écran que j'ai l'honneur en fait de programmer. Donc c'est ça, c'est notre deuxième année. Puis déjà, moi je suis vraiment très très touché, puis très humble en fait de voir l'engouement. C'est quand même assez cool. On a une bonne couverture médiatique aussi. Pas mal tous les gros journaux en ont parlé. Puis tu sais, moi ce qui me touche beaucoup en fait, c'est d'avoir des messages privés de, tu sais, comme des vrais messages de vraies personnes. Donc j'invite d'ailleurs, tu
De vraies personnes, c'est du monde qui sont comme pas en cinéma, là.
Non, non,
Enfin, c'est ça
mais
que tu veux
non,
dire?
c'est pas
Genre du
ça que
monde qui
je...
sont un peu externes au monde du cinéma, puis qui sont pas habitués de
Non.
voir du court, là, en fait, là. Non, mais
Ben.
c'est même pas péjoratif, là. C'est qu'il y a quand même du monde qui ont pas accès à un festival, qui
Ouais.
sont... Ou même, tu sais, vu que c'est ouvert à travers le monde, t'as des gens qui vont voir du court québécois qui sont dans d'autres pays, des francophones de d'autres pays ou même ailleurs au Canada qui ont la chance de voir du short
Ouais.
francophone fait au Québec. C'est quand même fabuleux là. C'est une super bonne idée.
Ouais, non, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, quand je disais des vraies personnes, c'est juste que tu sais, c'est facile de comme regarder, mettons, le nombre de vues, puis les statistiques, puis tout ça. Mais moi, ça me touche pas vraiment beaucoup. Ça, c'est plus vraiment ça, les messages personnels, des trucs comme ça. Donc, j'invite d'ailleurs les auditeurs, hein, si vous avez déjà les participer au festival et de voir les films, tout ça, mais aussi de m'envoyer un message privé, tu sais, puis de me dire, tu sais, vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Tu sais, on est juste à notre deuxième année, puis on est en train de, on réfléchit déjà en fait à la prochaine année. Puis à ce qu'on peut faire de plus pour le court-métrage, puis allez, qu'est-ce qu'on peut changer. On est vraiment comme au tout début, en fait, de ce processus-là. Puis c'est cool parce que nous, dans le fond, on a l'appui officiel de Facebook, tu sais, qui nous encourage beaucoup là-dedans. Parce que eux, je veux dire, ils font pas ça juste par bonté de cœur, là, tu sais, aussi, c'est parce qu'ils veulent comme promouvoir leur outil vidéo, puis montrer à quel point c'est facile, c'est faisable, tout ça. Donc, nous, on est vraiment, c'est ça, très, très contents. Puis je vous encourage à voir ça. Et d'ailleurs, tu te parlais de cinéma francophone, mais il y a quand même quelques films de soit pas de dialogue ou dans d'autres langues. Et on a essayé vraiment d'avoir des sous-titres pour tous les films, là. C'est pas toujours le cas, là. Mais mettons, un film français aura des sous-titres anglais qu'on peut cliquer ou non, là, sur Facebook, là. C'est assez simple de les activer ou les désactiver. Et même chose, c'est des films anglophones qui ont des sous-titres français. Donc, pour s'assurer que tout le monde puisse suivre le plus possible.
Très
Donc,
cool.
c'était mon instant promo. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai l'impression qu'on parle déjà d'une séance qu'on a vue, toi et moi, Rémi, ensemble.
Ouais, c'est rare qu'on réussisse à se timer. On est tellement tout occupé que on
Ouais.
voit pas souvent des films ensemble. Puis là, tu sais, ok, tu sais, je peux pour le mettre en contexte là, tu sais, moi j'étais chaque fois que je vais au cinéma là, il y avait la bande annonce là, de Justice League là, puis c'est vraiment à chaque fois que je voyais ça, j'étais comme bon, une autre affaire de super-héros, c'est sûr je le verrai pas. Puis pour ceux qui suivent le podcast depuis un certain temps, ils savent que je finis toujours par les voir dans des circonstances X. Puis là, of course, Justice League sort, les critiques sont mauvaises, of course. Puis je me dis, ça arrivera pas. Puis là, Paul m'appelle, puis il fait, hey, ça te tente-tu d'aller voir Justice League samedi? Ok, fait que je suis allé avec Paul.
Mais
C'est
là, on n'a pas.
arrivé.
Mais on n'a pas seulement vu Justice League, Rémi.
On a vécu
On a
de... Ok.
vécu Justice League en 70 mm. Non, mais.
Ouais.
Ça, c'est quand même drôle parce que, tu sais, dans un sens, là, moi, je suis vraiment un fan fini du 70 mm, là, comme du format IMAX aussi. Mais ça, c'était dans le fond un 70 mm régulier. Mais, tu sais, dans le fond, c'est vraiment une gimmick pour faire plus d'argent parce que, tu sais, le film n'a pas été tourné comme ça. C'est juste comme.
Non, non.
Il y a eu un print sur pellicule. Mais quand même, je trouve que la chaleur de la lumière est pas pareille. Puis peut-être que c'est le côté nostalgique en moi qui. Puis en ce moment, je me dis, plus on encourage ce genre de projection-là, plus il va en avoir. Là, fait
Il y a des petits, des micro, tu sais, des micro glitches qui apparaissent dans l'image. C'est super organique. C'était
Ouais.
vraiment cool, en fait. Moi, c'était la première fois que
Et ouais.
j'avais,
Et il n'y a pas de
j'avais.
timeplay, il n'y a pas de pub de Toyota. C'est juste
Non,
comme.
non.
Il y avait quelques pubs de films en 70, en pellicule, encore une fois, en
En
70 mm.
fait, il y avait, je sais pas si t'as entendu, mais il y avait Timeplay, mais il était comme en, il était, l'écran était noir. C'était juste
Ouais,
le
c'est
son,
ça.
puis là, il a comme baissé le son. Fait qu'on entendait Timeplay, puis non, non, c'était vraiment cool. Puis c'est ça, je l'avais pas vécu avec Hateful Eight. J'avais jamais vu le 70 mm, le nouveau 70 mm pour attirer les spectateurs geeks comme nous autres. Puis écoute, c'était peut-être la meilleure chose de cette expérience-là, finalement,
Parce que
tu
c'est ça, parce que
sais.
c'est quand même fou, c'est ça, cette nouvelle mode de faire des blockbusters en 70 mm. Parce que tu sais, tu regardes la liste, mettons, Wikipédia de tous les films de l'histoire faits en 70 mm. Puis je sais qu'il y a un festival. Ah, je me demande si c'est à New York qu'il y a le festival 70 mm à chaque année, qui présente exclusivement des films dans ce
Ah
format-là.
ouais.
Puis là, tu sais, c'est les gros films. Tu sais, c'est les Lawrence d'Arabie, c'est les 2001, là, tu sais, de l'espace, c'est les Ben-Hur. Et t'as genre Justice League dans cette liste-là.
Ah, tabarnak.
Puis t'es comme, ouais, tu sais. Ben bon, Justice League, quoi dire? C'est donc. En fait, c'est la suite directe de Batman versus Superman, Dawn of Justice.
Ouais, puis tu sais, puis moi j'étais pas à jour parce que tu sais, je dis que je les vois toutes, mais c'est pas vrai parce que j'avais pas vu Wonder Woman qui paraît que c'est le bon du DC Universe. Fait que j'ai vu toutes les autres qui sont vraiment de la merde. Fait que
Ouais.
j'étais comme un peu stressant, il y a l'air comme bon, je vais-tu perdre des bouts là parce que c'est le chapitre de, je sais pas de, mais finalement c'est ouais, c'est la suite de Batman contre Superman, puis disons que c'est pas très difficile à suivre comme histoire là.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, faut, tu sais, on savait déjà que le film avait eu un parcours vraiment difficile. Notamment, tu sais, là, il y a beaucoup de rumeurs avec Ben Affleck que finalement, il voudrait plus faire Batman, mais là, peut-être qu'il veut le faire. Aussi, ça, c'est quand même une tragédie, mais le réalisateur Zack Snyder a quitté le projet comme début d'année parce que, dans le fond, sa fille s'est suicidée. Et il avait pas fini encore le montage, puis la post-prod, tout ça. Mais tu sais, le tournage principal était fini. Donc là, le studio, bon, évidemment, sont compréhensifs et ils ont fini par trouver un remplaçant. Ça a été Joss Whedon, qui avait quand même orchestré les Avengers pour Marvel. Donc, c'est quand même assez fou, je pense, pour les fanboys là, qui sont comme « tu peux pas avoir les deux ». Mais bon. Et donc, lui, il a fait des reshoots. Il a sûrement, bon, on saura jamais vraiment quelle scène appartient à qui. Puis, tu sais,
On peut prendre des guesses quand
on peut
même, là,
prendre
tu
des
sais.
guesses, tu sais,
Tu sais, parce
connaissant le
que, tu
style des
sais,
deux cinéastes, là.
c'est. Ouais, puis c'est deux styles tellement différents que tu le sais, là, les films de Snyder, ça se prend ultra au sérieux. C'est des grosses shots de caméra parfaites, là. L'esthétique est à fond, est parfaite, parfaite, tu sais. Joss Whedon est plus dans les trucs légers, peut-être plus dans la comédie aussi, dans ces moments les plus forts dans les Avengers, c'est souvent les bouts ils font juste chiller, puis tu
Ouais.
sais, où ils
Les
font
moments
juste
de
jaser entre eux,
camaraderie, là, c'est.
c'est ouais, c'est ça. Puis des moments de personnage, tu sais, c'est le travail sur les personnages et non sur l'esthétique, puis fait que c'est ça, ça donne un drôle de Frankenstein de film. Puis l'autre truc, c'est que le premier cut, il paraît qu'il était autour de 2h45, là, tu sais, ça s'enlignait pour ça. Puis après les reshoots, il est tombé à 2h, après où Joss Whedon a mis sa griffe dedans. Il y a des rumeurs aussi qui disent que un des producteurs de Warner Bros., il voulait un cut de 2h parce que comme il a freaké à avoir un échec, puis finalement, ben, c'est un peu un échec, hein. On a eu les chiffres, puis ça a vraiment pas beaucoup rapporté, là. Je pense que ça a
Ben,
rapporté, c'était
écoute.
comme 4, ben, c'est comme 96 millions, mais qui est vraiment rien pour comparativement à ce qu'il pensait avoir, là. T'sais, un Avengers a fait au-dessus de 200 millions le premier week-end, puis là, t'as Batman contre Justice League qui fait 96 millions, là. C'est comme quand même une grosse déception pour les studios, là. Ça, c'est un peu partout dans les médias, là.
Ouais, mais tu sais, c'est ça,
Ça a
faut
l'air
quand
beaucoup d'argent, mais tu sais, c'est que
même.
le
Ouais.
prix que ça a coûté à faire,
Ouais.
c'est comme,
Mais
ouais.
tu sais, faut tempérer, là, dans le sens que, tu sais, envoyez pas des dons à Warner Brothers, tu sais, parce que même si le film est un échec au cinéma, ce film-là va être vendu en Blu-ray, ça va être vendu à des réseaux de streaming, tout ça, sur VOD, il sort dans leur catalogue pour, tu sais, pour l'éternité. Donc, c'est pas vraiment comme un échec, sauf que,
Ouais, mais c'est quand
vu qu'il n'y a pas vraiment
même un
d'engouement,
échec.
ouais, c'est un
C'est un
semi-échec, mettons.
échec box-office. Il y a vraiment eu des articles là-dessus, là. C'est
Ouais.
comme, c'est pas
Mais
du
c'est.
tout les chiffres qu'ils pensaient avoir, là.
Mais
C'est
moi, en
fait
fait,
comme
c'est que
bouffer le
c'est.
touron.
Ouais. Mais moi, je serais pas surpris, en fait, que ils opèrent un certain reboot, là. Puis qu'ils sont comme, OK, avec cette gang-là, ça a pas trop marché. Puis, tu sais, le Zack Snyder, c'est ça, après son repos forcé, est-ce que ils vont. Parce que Zack Snyder était quand même plus qu'un réal, là. Tu sais, il y avait vraiment comme sa marque sur tout cette famille de films-là, même ceux qu'il a pas réalisés. Et donc. Donc, est-ce qu'ils vont changer un peu les producteurs? Est-ce qu'ils vont changer un peu l'approche, les scénaristes? Notamment, je pense qu'il y avait David Goyer qui était pas mal crédité sur la plupart de ces films-là aussi. Fait que j'ai
Ben, il y a
l'impression que.
déjà Brett Ratner qui est out of the game, là, à cause. Ben, pas à cause, grâce à Gal Gadot, là. Je sais pas si t'as
Ouais.
entendu cette histoire-là, là. Brett
Ouais.
Ratner qui est connu pour être un asshole, là. Tu regardes les entrevues, puis il est raciste et misogyne dans les entrevues, avec des médias ultra généralistes, là. Fait qu'en privé, on se demande qu'est-ce qui se passe, puis avec toutes les accusations qui sont sorties, Gal Gadot a réussi à le sortir des prochains films, là. Fait que il serait plus impliqué dans la suite de ces films-là, là. Sa compagnie, là.
Non, c'est ça, parce que c'est Rat Pack, sa compagnie,
Rat
puis...
Pack, ouais, c'est ça.
Ouais. Donc voilà,
Alors, on
c'est
n'avait
un
pas parlé
peu...
du film encore,
Non, c'est
on est
ça.
comme...
C'est
Je
un
me
peu un
sens comme dans
préambule.
Loup-garou du campus quand Merton, il décrit quelque chose, puis là, ils disent « Dans le film, Merton! » Je sais pas si tu te souviens de ça. Je sais pas si t'es trop geek comme référence.
Non, ça c'est trop hors de contrôle comme référence.
Ah, ok, je suis désolé, je suis désolé.
Mais c'est ça, toute cette préambule-là pour dire qu'on n'y allait pas nécessairement avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ceci dit, je tiens à te rappeler Rémi Fréchette, en onde, on the record, qu'en sortant du film, t'as fait Ah, oh, c'était pas si pire ça, moi je m'attendais à bien pire que ça, c'était bon.
Non, j'ai pas dit c'était bon par exemple. J'ai dit c'était moins pire que ce que je pensais. Parce que pour vrai, la purge de Batman contre Superman puis de Suicide Squad, je l'ai encore dans le fond de la gorge. Puis ce film-là, il y a deux trucs plus positifs que eux, là. En fait, toi, t'as mis le doigt sur ce qui était négatif, c'est que le film a pas vraiment de signature parce qu'il devient un Frankenstein de deux réalisateurs, là. Il y a comme pas de, il y a pas de signature en soi. C'est un film vraiment fade dans la réalisation. Tu sais, bah, il y a des petits moments, là, il y a des petits moments qui sont le fun, mais, tu sais, les deux trucs positifs, c'est que le film dure 2 heures. Il s'étire pas sur comme 3 fucking heures de n'importe quoi que je me crisse. Puis l'autre truc positif, c'est que l'histoire est quand même simple. Ils ont pas essayé de, tu sais, Batman contre Superman, là, il y a des bouts, je savais même plus on était où. Suicide Squad aussi, c'est tellement n'importe quoi, autant au niveau du montage que de la scénarisation. Puis là, c'est comme A, B, C, D, E, F, G, c'est l'alphabet, là. On est comme dans un moule, là, super simple. Fait que pour vrai, je me suis foiré dans ma chaise, puis j'ai zéro réfléchi à ce qui se passait. Il y a eu des explosions. On est sorti, on est allé prendre une bière, puis on parlait après, puis on dirait que le film, il était déjà loin dans ma tête, là.
Ouais. Ben c'est drôle que tu parles de Suicide Squad pour dire comme que ce film-là était simple narrativement parce que c'est à peu près le même type de récit, c'est-à-dire une équipe qui se forme, on a une espèce de méchant générique en CGI, puis
Ouais,
juste
il y a
ça
des
dirige
comparaisons à
vers
faire,
là.
mais tu sais, Suicide Squad, c'est que t'es tellement avec plein de monde, tu t'en vas avec la chef, là, je me sais plus c'est qui, là, la chef des bureaux secrets, ou je sais pas trop quoi, là, t'es avec elle, à Mané, t'es avec la sorcière, à Mané, t'es avec, tu jumpes d'une affaire à une autre, il y a comme pas de fil narratif, il y a des scènes de bataille pluguées dans le milieu, juste pour une scène de bataille, là, c'est comme... Là, Justice League, t'es vraiment dans une affaire linéaire là, que t'as vu 1000 fois, mais au moins il y a pas d'extra là. Je pense qu'ils ont vraiment misé sur on va juste écraser le film, puis le monde ils penseront pas trop à genre ce qui marche pas, ça va juste aller vite puis ça va être fini là. Tu sais, c'est un peu de même que je l'ai pris là. C'est genre du dumb fun là. J'ai entendu, je suis Red Letter Media sur YouTube là, c'est des super bons critiques là. Ils ont fait, tu sais, les reviews de Star Wars là, d'une heure et demie là, c'est ils sont bien connus pour ça là. Puis ils font des épisodes à chaque semaine. Puis il disait une bonne affaire en fait qui était on dirait un épisode moyen d'un cartoon, genre d'un cartoon de Justice League là. Tu sais, genre un épisode moyen là d'un truc de même là. C'est comme ben ils sont tous là, puis il y a comme un méchant, puis ils se battent contre lui, puis ils gagnent, puis c'est fini là. Oh, spoiler. Non mais tu sais, c'est comme c'est vraiment là, genre la base c'est un épisode secondaire là d'un cartoon de super-héros là.
Mais il y a tellement de trucs pour moi qui font juste pas de sens. Puis tu sais, puis au-delà de tout ça, vraiment, moi, l'esthétique générale du film m'ennuie profondément, en fait, là. Puis ce que je veux
Oh,
dire
c'est
par là,
vraiment
c'est les
ordinaire.
choix de costumes, c'est la Batmobile araignée, c'est
Ah
genre
oui, ça c'est. Hey
certains
man,
personnages.
ça, je sais pas
Genre,
qu'est-ce qui
tu
s'est passé là. T'as
sais.
comme l'espèce de Batmobile fucked up. C'est genre, je sais pas si ça vient des comics, mais en tout cas, ça marche pas dans le film là. Tu sais, souvent il y a comme l'excuse, c'était dans les comics. Ouais, mais si c'est pas dans, tu sais, si ça marche pas en film, faites-le pas. Là, c'est juste un peu too much, là. On dirait que je suis capable de croire que Batman, il a plein de gadgets et tout, mais là, la Batmobile araignée, j'étais comme, ouais, là. Ça me rappelle un peu Wild Wild West, là.
Ouais, ben, ouais, c'est vrai. Mais moi, ça me faisait penser ce film-là à une espèce de carnet de croquis d'un jeune de 13 ans là, avec plein d'imagination, là, puis que là, il se met à
Ah, ouais.
dessiner un peu n'importe quoi, là, puis c'est comme, ah, oh, puis il va avoir des cornes, puis il crache du feu, puis genre, tu sais, des trucs de même, là, puis c'est juste ça pour moi, mais avec comme 300 millions, là, tu sais, puis tu sais, comme, Puis je t'en ai parlé d'ailleurs quand on est sorti du film, là, des espèces de personnages en CGI, je suis plus capable. Tu sais,
Oh my god!
ça marche des fois,
Le
tu
méchant
sais,
générique de
Gollum,
jeu
ça marche,
vidéo,
tu
là.
sais. Mais ouais,
Ouais.
le Steppenwolf là, dans ce film-là, l'antagoniste principal, tu sais, je suis pas capable de comme avoir du plaisir en regardant ça, tu sais. Puis, mais moi, un vrai acteur, puis tu peux mettre du make-up sur un acteur ou un masque, ça me dérange pas. Tu sais, mettons Bane dans The Dark Knight Rises, là, que c'est Tom Hardy qui le fait, puis un gros masque, ça bouge tout le long du film, ben ça, je trouve ça, c'est cool, tu sais, parce que tu vois les yeux de l'acteur, puis il y a de la vie, puis il est capable de comme tellement communiquer avec ses yeux, parce que c'est justement un des meilleurs acteurs au monde. Puis que, tu sais, le cinéaste en est conscient. Mais ça, pour vrai, c'est comme une espèce de création CGI pas le fun, puis là, ben. Son armée, c'est comme une armée de genre hommes, libellules, démons bizarres que genre on s'en fout. Je sais pas. Au moins, mettons les Amazones, tu sais, comme
Ouais, ben il y
la
avait une
gang de
belle scène
Wonder
quand même.
Woman. Ouais, au moins eux, c'est des
Il y avait
actrices,
une belle
puis
scène
tu
là, quand ils
sais.
essaient de sauver la boîte, là, il y a comme c'est
Ouais.
comme la scène d'action dans le film qui fait
Ouais.
un peu plus de sens, on dirait là.
Mais encore là, ta phrase, tu vois-tu quand ça n'a pas de sens? Essaye de sauver la boîte. Puis tu sais, c'est pas une métaphore ce que tu dis, pis c'est pas, tu sais, tu réduis pas, t'essaies
Non,
pas,
non, c'est
tu
ça,
vulgarises pas, c'est
ça se dit
littéralement une boîte. Tu sais,
cartoon
c'est
du samedi
genre.
matin, là. C'est vraiment
Ouais.
basic, là. Ils courent avec une boîte, puis ils veulent pas s'en faire prendre. Fin. C'est ça la scène, là. C'est
Parce que
comme.
le méchant veut comme. Il veut réunir les trois boîtes magiques. Tu sais, t'es
Ouais.
comme. Ça a pas de bon sens, là. Genre, comme. Tu sais, ça, c'est le genre de truc que. Tu sais, t'indiques ça dans un premier draft. Pour remplacer ça par autre chose. Tu sais, c'est comme, OK, ils ont une quête, mettons, puis là, ils vont ramener des objets, puis là, c'est comme ça, pour expliquer le projet. Puis ensuite, ben, tu travailles ton projet pour que, tu sais, ça ait du sens, pour que ça ait une signification émotive ou quelque chose, tu sais. Puis je sais que ça va rien changer fondamentalement que tu remplaces ça par, mettons, je sais pas, une clé, un pendentif, tu sais, n'importe quoi, mais crème, trois boîtes magiques, pour vrai, là, j'étais comme.
Ça a l'air, mais ça, tu sais, j'étais allé voir après, là, je te jure, j'ai checké, mais ça a l'air que ça, c'est des comics, tu vois. Tu sais, comme
Mais
quand
je
je te
m'en fous,
disais,
tu
faut,
sais.
non, non, mais c'est ça que j'ai juste de dire, comme,
Ouais.
c'est, dans le film, c'est juste une autre affaire, comme toutes les autres qu'on a vues, puis, mais c'est vraiment une affaire qu'ils ont pigé d'un comic pour faire plaisir aux fans, mais que là, t'arrives dans le film, puis c'est juste une autre cochonnerie, comme on a vu mille fois, là. Dans les Avengers, c'est les Roches, là, je sais pas trop quoi, là, les Infinite Stones, là. C'est comme,
Ouais.
c'est tout la même affaire, là. C'est des gogos magiques que quand tu les matches ensemble, ça te fait un, je sais pas, là, ça te donne un pouvoir, ou là, ce qu'ils voulaient repeupler la Terre, ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est
Mais
ça,
tu
pis.
sais, mettons, si on prend, mettons, Wonder Woman, OK, parce que le film de Wonder Woman, pour vrai, il faudrait que tu l'écoutes, là, c'est quand même pas mal bon, là. Puis, tu sais, elle a des pouvoirs magiques, Wonder Woman, tu sais. Elle a
Ouais,
des,
ouais.
tu sais, notamment, elle peut, tu sais, arrêter les balles, puis les faire rebondir, puis elle a comme une espèce de lasso de vérité que, quand elle prend quelqu'un dans son lasso, ben, la personne a dit la vérité. D'ailleurs, il y a une très, très drôle scène avec ça dans le film, là. C'est comme une des bonnes scènes du film. Mais, ça aussi, c'est de la magie, puis tu sais, j'ai pas besoin de comprendre, puis d'avoir une explication, tu sais. Puis ça marche, c'est correct, mais tu sais, c'est pas comme trois boîtes magiques, tu sais. Puis en plus, non seulement ça, mais là, c'est trois boîtes magiques, puis là, il y a un faisceau bleu vers le ciel, encore une fois, avec des ailes qui
Ah
sortent,
oui, ce
là.
fameux.
Tu sais, je veux dire, je comprends que tu essaies de, comme, concurrencer Marvel, puis faire un peu la même chose, mais, tu sais, littéralement, là, think outside the box, là, tu sais, c'est comme, fais autre chose, je sais pas, ou... Je suis autant déçu que quand dans Star Wars épisode 7, puis ça on n'en avait pas parlé à l'époque parce que je voulais, tu sais, pas trop spoiler, mais là quand même, je pense que les gens ont eu le temps de le voir, là. Tu sais, avoir encore une espèce d'étoile de la mort, là, c'est comme, vous avez pas
Ouais.
d'autres idées, là, c'est quand même la troisième fois, là, en 7 films, là, tu
Ouais, mais au cas où ça marche cette fois-ci, là. Au cas où, genre, le
sais.
plan, il est... Non, tu sais. Ah, mais moi, je dirais que les quelques moments là, qui m'ont vraiment plu, c'est les moments qui n'avaient pas rapport avec l'histoire générale du film. Il y a deux scènes au début du film que j'ai vraiment, comme, j'ai trouvé vraiment cool. En fait, ça a commencé, puis j'étais comme, ah! Il y a peut-être des, tu sais, peut-être qu'il y a un bout où le film, il va se racheter, là. Mais il y a une scène sur un toit avec Batman qui se bat, puis ça avait l'air d'un film de Batman. Genre, ça avait l'air d'un, tu sais, il y avait comme Gotham en background, tu sais, il se bat contre, ça dure genre 2 minutes, là, puis c'est au tout début du film. Ça a un peu rapport avec l'histoire, mais comme, tu sais, en même temps, c'est juste une scène de combat avec Batman. Mais j'ai trouvé ça, genre, je trouvais que ça avait un beau look. Ça ressemblait à un genre de Gotham, quasiment des films de Tim Burton, là, mais mettons avec la technologie CGI d'aujourd'hui. Mais il est comme, tu sais, c'était comme, il y avait une belle petite scène là, puis tout de suite après, t'as une scène de vol de banque qui accote pas la scène de vol de banque de Dark Knight, mais t'as une scène de vol de banque avec Wonder Woman, qui est une super belle scène, qui est bien faite, avec un. C'est une belle. C'est comme quasiment un court-métrage de Wonder Woman, là. Tu sais, où tu veux juste la présenter pour montrer ses skills. Puis, comme ça, j'ai vraiment trouvé ça nice. Si j'ai pas vu le film de Wonder Woman, tu m'as dit que c'était des trucs de même un peu tout le long, puis c'était du sous Wonder Woman, mais tu vois, ce moment-là, j'ai trouvé ça le fun. Puis sinon, il y a comme deux, trois gags que vraiment, j'ai le feeling que c'est Joss Whedon, là, parce que c'est des moments de personnages un peu comiques que j'ai comme qui sont vraiment le fun là, à travers le film, mais tu sais, c'est comme. C'est deux bonbons à travers un tas de marde, là, on s'entend, là. C'est comme, faut que tu digues loin, là. C'est, tu sais, t'as comme le moment, là, où Flash puis Superman, ils se regardent pendant que, vu que les deux vont super rapidement, là.
Ouais, c'est un peu un spoiler, là, mais bon.
C'est un spoiler? Je sais
Ben,
pas.
il y a comme un des personnages que tu viens de nommer qui était comme mort dans le précédent
Ben ouais,
film.
mais tout le monde le sait, si, dans les bandes-annonces, genre, il est partout, là.
En
Est-ce
tout
que
cas.
c'est un spoiler que Superman revient vraiment, là?
En tout cas, je te laisserai
Genre, tout
gérer
le monde
les.
a vu.
Je te laisserai gérer les
Non,
courriels
mais
de.
tout le
Non,
monde a vu
mais.
en plus
Ouais,
genre tous les articles sur la moustache d'Henry Cavill. Tu sais, genre, c'est partout, là. On s'entend, il y a personne qui est surpris que Superman revienne, là. Genre, sérieux, là, c'est. Ok, ben, je sais pas, ça on pourra le couper sinon du podcast,
Non, ça va, ça va.
mais semble que c'est assez. Genre, tout le monde le sait, là. Si quelqu'un a un minimum d'intérêt à aller voir ce film-là, il fera pas comme, hey, c'était vraiment plate quand Superman mourait, hein. Ça serait donc le fun qu'il revienne dans celui-là, mais je le sais pas, là. En tout cas. Puis,
Donc,
mais il y
qu'est-ce
a
que
un
ça veut
autre
dire,
moment
oui?
aussi qui est comme dans la scène finale que lui, je le spoilerai pas, mais où c'est encore un peu une comparaison de la force entre Flash puis entre Superman. Puis ça, je suis sûr que c'est un, tu sais, ça file comme un moment humoristique à la Joss Whedon, c'est vraiment un beau petit moment, là. Je sais pas si tu sais de quoi je parle, là. C'était à la fin de la catastrophe, comme du chaos pendant le combat final, là. En tout cas, c'est ça. Ça me mène vers un autre point. En fait, parce que ça mène au point où I wonder why, là, mais il y a tellement de films qui se passent maintenant dans des petits villages isolés dans le fin fond de la Sibérie, là. Je sais pas trop, là. Je pense que c'est de cette région-là où on était. Puis là, ça a l'air que les méchants, ils s'établissent là pour une raison X. Puis, on voit pas trop la vie dans cette place-là. Même si c'est une place un peu désertique, il y a des maisons, puis il y a des gens, mais on est seulement avec une famille. Puis une famille qui est zéro intéressante, puis qui va mener à rien dans l'histoire. On est juste avec eux. Genre, puis on vit le chaos dans la ville à travers leurs yeux tout le long du film. Mais on sait pas c'est qui, on sait pas à quoi ils servent à part à donner un regard au public à leur place. Mais tu sais, rendu là, il faudrait créer un personnage qui va servir à quoi dans la trame narrative, ou sinon aller vers un échantillon plus large. Là, on est vraiment avec cette famille-là qui sont pognés dans leur appartement pendant que dehors, c'est l'apocalypse, là, c'est genre l'enfer sur Terre. Puis eux autres sont cachés dans leur petite maison, puis t'es avec eux, là, puis je sais pas
C'est
trop,
vrai, c'est ça,
là.
c'est vrai que c'est ça, quand il y a une résolution avec ce côté-là du film, c'est vrai que c'est comme moins, c'est moins intéressant. Tu sais, t'es comme pas super content qu'il soit sauvé. Tu sais, t'es content parce que t'as de l'empathie, mais c'est pas comme genre un gros moment, autant que le film aurait voulu, là.
Non, c'est ça. Ouais, fait
Fait que
que
bon.
c'est. Ouais, fait que bon, hein.
Donc,
Il y a beaucoup de silence, là.
Non, mais Justice League, là, il est en salle et puis vous l'avez sûrement. Si vous êtes intéressé, vous l'avez sûrement déjà vu. Sinon, ben, donnez-vous pas, ça vaut pas la peine.
Ben non, c'est. Tu sais, comme, t'attends qu'il sorte sur Netflix, puis tu peux snoozer à travers, là. Mais c'est comme. C'est. Non, non, c'est. Non, là. C'est sûrement. Certainement pas, là. C'est ça.
C'est ça.
J'ai rien d'autre à dire. Ah, attends, non, j'ai une dernière
Oui.
petite chose à dire. Ça, c'était. Il y a quand même eu des articles là-dessus aussi, fait que je pense pas que c'est un spoiler, mais j'ai eu deux geekgasms quand même au niveau de la musique. C'est Danny Elfman, là, qui fait un soundtrack un peu générique, mais il y a genre un micro-moment où en background, t'entends le thème de Batman 89, là, du Batman de Tim Burton. Un moment où genre Batman conduit sa Batmobile, puis là, c'est super cool, puis t'as le petit ta-da-da-da-da. C'est ben ça, en tout cas. Mais tu sais, je m'emmerdais tellement qu'on dirait que ça pop, pis je suis comme, ah, enfin quelque chose qui me fait plaisir, tu sais. Puis, il a réussi aussi le thème de Superman un petit moment, le thème de John Williams. Puis il a fait un petit clin d'œil à ça, puis c'est comme, c'est quand même cool, là, tu sais, qu'il a pu se permettre ça, mais tu sais, tu vois que c'est un peu du, quasiment, C'est quasiment du... tu sais, les studios, ils veulent tellement être aimés qu'ils vont tout faire pour te donner quelque chose que tu
Ben
vas aimer dans ce film-là.
c'est ça le
C'est comme...
problème, parce que, tu sais, je me rappelle de ce bout-là, puis effectivement, on s'est regardé, faire comme, ah, c'est musique de Batman, mais tu sais, comme, on dirait qu'il l'assume pas assez, c'est ça, c'est comme un espèce
Ouais,
de,
c'est ça.
c'est comme un clin d'œil, pas d'âme, puis pas de cœur, c'est juste comme genre, bon, ben, here is your Batman team, puis, tu
Mais ils
sais.
sont quand même cachés, ils sont pas dans ta face en même temps. Je sais
Ben,
pas
moi, j'aurais aimé
si.
ça qu'il
Je pense
l'assume
pas que c'est
plus,
le.
le clin d'œil, ou tu sais,
Ouais, ça aurait été cool. Ça aurait été cool, là.
ou tu
Mais tu
sais,
sais. Mais c'est vraiment, on dirait que c'est aimez-nous, là. T'sais, ils veulent faire de quoi d'original, mais en même temps, ils veulent plaire aux fans de BD, mais en même temps, ils veulent plaire. Ils veulent tellement les ratisser large que finalement, le film, il est fade, là. C'est ça le plus gros problème. Ils veulent tellement être aimés qu'ils sont désagréables, là. Genre, tout le
ouais,
monde
c'est
a déjà
ça.
une relation comme ça avec quelqu'un. Ah, oh, go fille, là. Quelqu'un qui veut trop que tu l'aimes, là. Ben, ça finit par être emmerdant,
Bon, on s'en est pas
là.
mal personnel, Rémi. Fait
C'était notre point de vue. Alors, discutons avec la bande-annonce de OK.
Donc, ouais, Justice League, probablement uniquement pour les fans hardcore, parce que honnêtement, pour les autres, un peu comme nous, qui entendons ça un peu avec une plus grande distance, c'est assez un échec, disons-le comme ça. Sinon, Rémi Fréchette,
Oui.
cette semaine,
Oui.
sur Netflix. Parce que parfois, en fait, Netflix, c'est un peu la seule chose que je peux me permettre, là, quand on a des gros horaires compliqués.
Oui.
J'ai vu un petit documentaire, puis je pense que tu en as entendu
Oui.
parler. Ça s'appelle Jim and Andy, The Great
Ah, tu l'as
Beyond.
vu aussi? Je savais même
Ouais,
pas que tu l'avais
ouais,
vu. Je
ouais.
l'apprends en
Featuring
live, là.
a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton de Chris Smith. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins, mais tu sais, c'est quand même plus que ça, mais pour le résumer brièvement, c'est le making-of de Man on the Moon de Milos Forman en 99 avec Jim Carrey. Un de ses premiers films dans cette vague dramatique, lorsqu'il va être pris plus au sérieux. Et en fait, ce qu'on
Ben en fait,
apprend.
c'est probablement son premier dramatique parce que il sortait de Menteur, Menteur. Tu sais, il a fallu qu'il supplie Milos Forman pour faire le film parce qu'il était trop considéré comme un acteur mainstream comique. Puis il voulait faire ça. C'est tellement reconnu dans le personnage que
Ben c'était quand même,
ouais, c'est ça.
il avait fait quand même Truman Show juste avant, fait que tu sais,
Ah, ouais, c'est
ouais,
vrai,
ça coup sur coup,
ouais.
ça a comme changé un peu son image, là. Mais oui, parce que Jim Carrey, en fait, connaissait personnellement Andy Kaufman. Fait que c'est pour ça que, notamment, c'était pour lui tellement important de faire ce projet-là. Et donc, ce film-là, en fait, c'est que le footage, le behind the scenes, a jamais sorti jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Parce que, supposément, et c'est ce qu'on apprend de la bouche de Jim Carrey, Universal, le studio qui distribue Man on the Moon, voulait pas, en fait, briser l'image de Jim Carrey, voulait pas que le monde pense que c'était un trou de cul, en fait, littéralement, là. Parce que, tu sais, là-dessus, il utilisait la méthode, puis il était vraiment, genre, in character, donc il était dans son personnage tout le long, en dehors des prises, dès qu'il était sur le plateau, en fait, dès qu'il était dans les studios d'Universal, il fallait qu'on l'appelle Andy, puis il répondait pas au nom de Jim, tu sais. Donc,
Ben, il parlait déjà à la troisième personne en plus, tu sais,
c'est ça. Donc, Andy, le vrai Andy Kaufman aussi, qui avait une espèce d'alter ego, Tony Clifton, une espèce de version ultra agressive, vulgaire, désagréable, bedonnante et un peu alcoolique de lui-même. Et donc, Jim Carrey, quand il incarnait Andy Kaufman, il incarnait également son alter ego. Fait que là, t'as comme tout en fait un étrange jeu dans le film où t'as Jim Carrey qui incarne Andy Kaufman, qui incarne Tony Clifton, qui dit qu'il haït Jim Carrey, là, tu sais. Fait que ça devient très méta. Et même ce documentaire-là, en fait, il est très méta parce que c'est comme Jim Carrey d'aujourd'hui, tu sais, parce qu'il y a quand même des longs segments du film que c'est des entrevues avec lui de nos jours, qui
ouais, puis
expliquent
ça,
dans.
en fait, c'est une seule entrevue avec Jim
C'est
Carrey.
ça,
C'est pas,
c'est ça.
tu sais, souvent les documentaires sont construits avec plein d'entrevues qui s'entrecoupent. Là, c'est Jim Carrey dans une seule entrevue qui raconte tout. Puis à travers ça, t'as les morceaux de documentaire. Fait que c'est pas un gros mishmash d'entrevues puis de témoins de la chose puis de t'es juste avec Jim Carrey qui raconte comment il a vécu l'histoire.
Ouais.
Ça, c'est vraiment intéressant comme point de vue, là.
Puis pour ceux peut-être qui n'étaient pas trop courants, parce que ça, Jim Carrey, il fait plus beaucoup de films en fait, puis c'est assez très bon. D'un côté, c'est parce que notamment il y a quelques films qu'il a fait qui n'ont pas eu un gros succès, puis aussi, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement besoin de faire des films, il a quand même beaucoup d'argent. Mais aussi, c'est parce que, notamment politiquement, tu sais, je sais pas si tu avais suivi ça, mais pour Kick-Ass 2, en fait, il avait refusé de faire la promo du film parce qu'il y avait eu genre une fusillade comme
Ah, oui, je me souviens,
une semaine avant le début du film, tout ça. Et puis,
ouais.
son personnage de méchant dans Kick-Ass 2 utilise des armes à feu, tout ça. Puis ça l'avait vraiment profondément troublé. Puis depuis ce temps-là, il milite beaucoup, en fait, pour qu'on enlève la violence dans les films. Et aussi, il fait beaucoup de peinture maintenant. Il vend ses toiles. Il y a eu un petit documentaire là-dessus sur Vimeo qui est sorti en début d'année. Je pense que ça s'appelle I Needed Colors. J'avais besoin de couleurs, si je me rappelle bien. Puis donc, on voit, tu sais, Jim Carrey en 2017, c'est un homme beaucoup plus sage, tu sais, peut-être que le Jim Carrey qu'on se rappelle. Je sais pas pour toi, mais moi, on n'est pas vraiment la génération, je pense qu'on a grandi avec Jim Carrey dans un sens. Moi, c'était comme
Ouais, puis
un de mes premiers
il
héros, là, tu sais.
parle en gros de sa grosse année qui est 96, où en un an, il a
94.
fait 94, oui, excuse-moi, en 94, il a fait trois films qui est devenu une méga star. Il a fait The Mask, il a fait Dumb and Dumber, puis il a fait Ace Ventura 1 la même année. C'est
Ouais.
comme, c'est insane, là. Tu deviens une méga star d'un
Ouais,
coup, là.
c'est quand même fou, là.
Ouais.
Puis c'est ça, puis je sais pas pour toi, mais moi, c'est ça, j'ai vraiment comme. C'est ça, j'ai grandi avec lui, puis ça a toujours été comme un de mes héros. Puis là, c'est comme de voir. Je sais pas, il y avait quelque chose. Bon, le film d'un côté, je trouve que ça fait quand même un peu promotionnel, puis tu sais, ça manque peut-être un peu de distance. Puis t'en
Qu'est-ce que tu
regardes.
veux dire à promotionnel?
Ben, tu sais. Ça fait un peu genre Jim Carrey qui se trouve bon, puis il était comme, t'as vu à quel point j'étais immersif, puis tout ça, puis j'étais populaire à l'époque, puis tu sais, il y a un peu ce côté-là que tu te dis, puis tu sais, c'est dans le fond, c'est lui qui a donné accès à ça, à ces bandes-là qui ont jamais sorti, tu sais, qui ont jamais vu le jour, puis tu sais, tu vois que ceux qui posent des questions aussi sont quand même, tu sais, en admiration devant Jim Carrey, puis tu sais, il dit un peu des trucs, là, tu sais, des philosophies de vie, des affaires comme ça, puis. Oui, des fois ça sonne bien, mais d'autres fois t'as l'impression que tu sais, il patine un peu ou tu sais, il dit des choses un peu au fur et à mesure. Puis contrairement à un film, mettons, comme parce que c'est un film dans le fond dans la forme qui rappelle beaucoup un truc comme mettons De Palma, qui revient sur sa carrière. Je sais pas si tu l'avais vu là.
Ouais, je l'ai pas vu celui-là.
Ouais, puis c'est un peu le même principe. C'est vraiment une longue entrevue avec Noah Baumbach, puis dans le fond entrecoupé d'extraits de ses films. Sauf que peut-être
Sauf que là,
que
c'est du making of,
ouais.
le crew making of aussi, ce qui est vraiment trippant, c'est que c'est des gens qui étaient dans l'entourage de Andy à l'époque. Donc je pense que c'est une de ses ex-copines, puis son co-scénariste, co-scripteur de l'époque. Fait que c'est des gens qui connaissaient Andy, puis
Ouais.
c'est eux qui tournaient les images de Jim Carrey sur le plateau. Fait qu'il y a comme le côté méta va encore plus loin, là. Il y a même un côté voyeur là-dedans, là. Mais tu sais, tu parles de côté promo, mais moi je trouve en fait que ça donne. Tu sais, je suis un peu d'accord avec les studios dans un sens où ça donne un peu une mauvaise image de Jim Carrey, là. Tu sais, j'ai zéro envie de travailler avec ce gars-là en voyant un truc de même, là. J'ai tellement de compassion pour Milos Forman qui doit gérer ça sur le plateau. Il fait un long métrage. Tu sais, le gars, il a fait Amadeus, puis voilà, tu t'as mis de coucou. Puis là, il est pris à faire ça, là, à gérer ce dude-là sur son plateau de tournage, à essayer de faire un long métrage qui se tient avec un gars qui est complètement all over the place. Je trouve que c'est pas tant une belle image de Jim Carrey. C'est vraiment trippant à regarder, là, le côté voyeur, puis le côté what the fuck, là, parce qu'il y a des moments vraiment weird, là, ou des moments où, en jouant Andy, il va rencontrer des membres de la famille d'Andy Kaufman qui vont y parler comme s'il était Andy, puis c'est comme. C'est étrange, là. C'est vraiment, vraiment étrange. Mais j'ai vu même des amis comédiens sur Facebook qui ont blasté le film. Ça les a tellement choqués de voir le non-respect des collègues de travail j'ai vu un post, je suis sûr qu'ils nous écoutent pas, mais s'ils nous écoutent, ils vont se reconnaître, mais ils ont mis un post où ils disaient, on a arrêté au milieu, on était trop, tu sais, c'est trop un trou de cul, on pouvait plus en prendre, là, tu sais. Il y a le bout, là, ils ont dit que ce qui les a fait craquer, c'est le bout, ils sont dans la roulotte de maquillage. Puis ça, c'est comme, genre, même dans le début, là, du film, là. Puis il prend une radio, puis il place de la musique, là, ultra stressante,
Ouais,
puis il met
super
ça, genre,
fort.
dans la roulotte de maquillage, pointé vers tout le monde qui se fait maquiller. Puis
Ben,
tout le monde
c'est.
n'est pas de bonne humeur, là. Il doit être,
Ouais.
genre, 5h30, 6h du matin, les gens viennent de se réveiller, puis t'as Jim Carrey qui impose une musique ultra stressante et déplaisante dans la roulotte de make-up en début de journée, là. Oh my God, quelle horreur, là!
Ouais. Ben c'est clair que s'ils ont arrêté là, ils n'ont pas vu les pires pranks
Hey my God!
Jim slash Tony. Là. Mais tu sais, parce que le film, je le trouve pas mauvais, puis tu sais, moi je trouve que c'est bien, mais tu sais, est-ce que ça méritait vraiment une grande sortie en pompette, puis ça le jouait dans une couple de festivals avant d'atterrir sur Netflix, puis ou est-ce que c'est juste comme une espèce de making-of glorifié, puis même tous les segments en fait avec l'entrevue de nos jours de Jim Carrey, là. Tu sais, ça ajoute-tu tellement quelque chose que mettons, un intertitre aurait pu amener, là?
Ben, je pense que ça prenait tu sais, présentement, je montre du documentaire, là, puis ça te prend tout le temps ta ligne narrative, là. Parce que c'est juste mettons, juste du footage de l'époque, ça aurait été trop chaotique pour construire quelque chose. Fait que ça leur prenait une colonne vertébrale, tu sais, pour faire tenir le film. Puis tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Sinon, ça aurait été d'aller chercher plus d'entrevues puis faire un truc ultra classique. Moi, je trouve que d'avoir juste Jim Carrey, c'est comme ça donne l'essentiel, puis ça donne un format qui est un plus, tu sais, dans sa simplicité, ça donne de quoi qui est plus original qu'un documentaire avec full d'entrevues. Là, t'as vraiment un
Ouais.
point de vue, t'as juste une colonne vertébrale au footage. Parce que tu veux voir ce qui se passait sur le set, tu sais.
Mais
C'est
tu sais,
comme,
si ça
moi,
avait
je trouve
été,
ça
mettons.
fascinant, là.
Ben oui, mais
Qu'est-ce
c'est
que tu
parce que je
dis?
peux pas m'empêcher un certain malaise. Parce que tu sais, imagine si ça avait été le DOP qui avait pris la place de Jim Carrey de nos
Ouais, ouais,
jours, tu sais, qui
ouais.
avait tout raconté, ou ça avait été le
Ah non, c'est
producteur, ou
sûr, il y a
peu
les autres
importe qui, tu
regards,
sais.
là.
Parce que là, ça fait un peu Jim Carrey qui te montre les extraits qu'il veut, qui parle de Jim Carrey à la troisième personne, puis que tu sais. Puis, oui, je trouve que tu sais, c'est un bon acteur, puis c'est sûr que comme ce film-là aussi, c'est un bon film, puis je suis content de voir ça, mais je sais pas, tout le long du film, je pouvais pas m'enlever ça de la tête, puis je pouvais pas vraiment comme prendre ces images pour ce qu'elles étaient. T'sais. Puis je voudrais, c'est pas juste Jim Carrey le problème, tu sais, je voudrais pas non plus voir le même type de. Tu sais, je voudrais pas voir Leonardo DiCaprio m'expliquer comment il a fait The Revenant, puis tu sais, ouais, puis là, j'ai vraiment
Ouais.
mangé du foie, pis tout ça. Tu sais, je trouve que. Fondamentalement, là, la forme du documentaire fait que ça limite son impact, puis ce que ça peut être, là.
Ouais, ben, je sais pas, tu sais, c'est un choix de point de vue aussi, là, dans le sens que quand tu fais un doc, tu choisis, c'est par les yeux de qui tu vas découvrir ça. Là, c'était, tu sais, Jim and Andy, là, c'était vraiment ça, la thématique du truc, c'était. Je sais pas, là, je trouve que ça donne une forme originale au truc. Effectivement, c'est peut-être pas la façon idéale, mais ça fait que ça sort quand même un peu du lot. Moi, comme je disais, c'était ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir ces images-là qui ont été. Ça me fascine toujours, là, du footage perdu dans une voûte, là. Tu sais, les
Ouais.
films perdus, puis tu sais, le film de Jerry Lewis qui est jamais sorti, là. Tu sais, ça fait comme ça, je trouve ça tout à fascinant. Puis
Ben,
quand
mais ça se
t'apprends
peut
que t'as du
d'ailleurs qu'il y en ait
footage.
un récent là, qui soit dans une voûte. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais le nouveau film de Louis C.K. Possiblement
Ah
qui
ouais, c'est
sortira
vrai,
pas,
c'est
hein.
vrai. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est toujours vraiment fascinant, là, les films perdus, puis tu sais, juste d'apprendre de base qu'il y a du footage de ce projet-là, en behind the scenes qui existe, je trouve ça malade. De voir tout ça, moi, je suis vraiment content, là, comme cinéphile, puis comme cinéaste aussi, là, comme artiste, j'aime vraiment ça, découvrir ça. Je comprends en quoi ça peut rebuter aussi des gens, là. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis aussi, j'adore Manon Nomo. C'est un film que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un film on parle pas beaucoup, là, de ce film-là. Mais autant dans la filmographie de Milos Forman que dans celle de Jim Carrey, c'est un gros morceau. Puis c'est assez spectaculaire. Quand j'avais vu à l'époque, j'étais quand même jeune. Puis je connaissais pas du tout Andy Kaufman. Puis c'est le genre de film qui avait vraiment, tu sais, éveillé ma curiosité. Après, là, j'avais fait des recherches sur Andy Kaufman. J'avais cherché c'était qui. Je devais avoir quoi, 13 ans, là, quand je l'ai vu, 12-13 ans. Puis tu sais, juste le film m'avait vraiment illuminé, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais là, de voir le plateau, je sais pas, là, c'était cool, là, c'était une belle aventure, là.
Non,
Ouais.
puis en fait, c'est ça, quand Jim Carrey parle d'Andy Kaufman, puis qu'on voit, mettons, t'sais, des archives d'Andy Kaufman, ben là, j'y crois à sa sincérité, puis à l'influence qu'il a pu avoir sur lui, puis à quel point il pouvait l'aimer, tout ça, puis l'admirer. Puis il n'y a pas justement cette espèce de barrière bizarre, parce que quand que Jim Carrey parle de lui-même, soit il est trop vantard ou soit il est trop modeste parce qu'il veut pas avoir l'air vantard. Tu sais, c'est inévitable. Tu sais,
Ouais,
tu peux
moi-même,
pas.
je dirais.
Hein?
Même, excuse, j'allais dire, même, je dirais, en fait, c'est soit il croit vraiment beaucoup à sa technique de jeu, ou soit il est fucking fou, là. Soit c'est un malade mental, puis à cette époque-là, il était complètement crazy, là. Genre, c'est un ou l'autre, ou les deux, même, là, peut-être, là. Mais tu sais jamais c'est quoi la frontière de la folie, là, là-dedans, là. Il est comme, il est out, là. Il est pas là,
Mais tu
là.
sais, en tout cas, je peux pas m'empêcher de penser que si, mettons, le film avait sorti, puis ce footage-là avait été sorti seulement après la mort de Jim Carrey, éventuellement, là, puis ça avait été comme des historiens ou d'autres acteurs qui auraient comme mis ça en contexte, puis il semble qu'il y aurait tellement eu un autre impact, là. Là, je suis quand même, tu sais, je sais pas, ça fait un peu, tu sais, vlog ou, tu sais, comme ta page YouTube, puis là, t'es comme, hey, by the way, j'avais ça dans mes archives, puis, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment. C'est vraiment malaisant, en fait, moi, je trouve, comme film.
Ah ouais, moi, le monde là, qui ressort des vieilles affaires pour faire des nouveaux projets, là, c'est-tu que ça m'énerve? La voûte de film par Rémi Fréchette sur YouTube et sur Facebook et... Non,
Non, mais là, bon.
mais je comprends ce que tu veux dire. Oh, oui. Mais c'est ça aurait été un autre choix de point de vue. Ça aurait pas été Jim and Andy, tu sais. Ça aurait probablement pas été ça, parce que là, il parlait de sa relation avec le Andy Kaufman. C'est comme, c'est ça qui est weird, là, c'est... Il y a des bouts où je trouvais, tu sais, je riais vraiment pas, là, j'étais juste mal à l'aise, là. Mais c'était un malaise qui m'a fait plaisir, je sais pas, là. Je sais pas comment le décrire, là.
Non, parce que quand
Ouais.
même, la force du film, c'est vraiment, tu sais, de montrer une facette du jeu, puis jusqu'où ça peut aller, en fait, puis à quel point c'est complexe. Parce que justement, tu sais, une scène qu'on repris dans le film, parce que c'est pour ceux qui ne savent pas, Andy Kaufman est mort très jeune du cancer. Et il met ça en scène dans le film Man on the Moon. Puis justement, ce qui est frappant, c'est quand le personnage demande à Andy Kaufman, le personnage joué par Jim Carrey, quand il annonce que le cancer, il dit, OK, mais. Dis-moi que c'est pas une joke, dis-moi que c'est pas encore un de tes pranks, tu sais. Parce que c'est ça, c'est que ça peut aller loin à un moment donné, les jeux de miroir, puis de masque, puis de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, avec justement des gens comme Andy Kaufman, que il faisait un peu de l'anti-humour, tu sais, il faisait un peu de l'humour absurde, puis tu sais, il essayait vraiment de voir jusqu'où il pouvait aller, puis être accepté. Donc, c'est ça, ne serait-ce que ça, en fait, une belle étude de la facette qu'on pense pas toujours, en fait, là, par rapport au jeu.
Ouais.
Donc voilà, alors ça vaut le coup d'œil, t'sais, clairement, si vous êtes intéressé par ce genre de projet. Mais Rémi Fréchette,
Oui.
parlant de projet très autobiographique dans lequel un personnage s'incarne lui-même pour le compte de Netflix.
Oui. Ben là, je pensais que tu allais introduire, mais oui, j'ai regardé la nouvelle saison de Master of None. En
Master of
fait, oui,
None.
je suis en mode. Je suis un peu en mode Netflix, là, ça, puis Stranger Things 2 aussi, là, que j'ai regardé, là. Mais on peut passer à travers Master of None rapidement, là, mais tu l'as-tu vu, toi, Paul? T'as-tu déjà regardé?
Non, c'est ça, je sais que c'est la série donc d'Aziz Ansari qui a fait des très bons shows. En fait, moi je connais ses spéciales d'humour qui sont sur Netflix. C'est un jeune humoriste indien, très 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 bon, très très drôle. Et je sais aussi que ses parents, ses vrais parents biologiques jouent dans la série également. Puis
Ouais, ouais, ouais.
apparemment dans la saison 1, c'était un peu un des hits, là, puis lui en parle dans une de ses shows, justement, qui dit que, là, son père voulait être payé comme une vedette, puis était comme, come on, Pat, t'es pas si drôle que ça, puis en tout cas, c'est
Mais c'est parce
très...
que il joue mal, c'est super awkward, mais ça fait partie du charme de tout ça, là, tu sais. C'est comme,
C'est ça, c'est
c'est vraiment
juste...
comique, là,
Ouais.
son père, il est hilarant, là, il est vraiment drôle. Puis c'est tout est off un peu, là, mais ça fonctionne dans l'esthétique de la série, là. Donc, ouais, ben, c'est ça, il joue lui-même, puis essaye de trouver des rôles, si possible, des rôles non stéréotypés pour un Indien. Il essaye de trouver l'amour, c'est une série qui flotte un peu, je dirais. Tu sais, il n'y a pas de ligne narrative ultra précise à travers. Puis c'est un peu, je pense, tu sais, c'est un peu ce qui va en faire décrocher quelques-uns, mais en même temps, c'est un peu la force de cette série-là, d'après moi, parce que ça suit aucune convention. La saison 1, il y avait un petit peu moins de magie. Les épisodes sont vraiment bons. Mais la saison 2, ce que je viens d'écouter... Il faut s'y rendre parce que chaque épisode a un device narratif ou esthétique différent. Il essaie des trucs là, vraiment, vraiment edgy. Puis je suis comme content que Netflix puisse donne la chance aux créateurs de faire des trucs aussi loin des conventions. Tu sais, par exemple, le premier épisode de la saison 2, il est en Italie, pour des raisons que vous apprenez en saison 1. Puis le premier épisode, il est presque entièrement en italien sous-titré. Donc lui, il parle en italien. L'épisode est en noir et blanc. C'est tourné comme un film de Fellini. Il y a plein de références là, au cinéma italien classique. Il y a un épisode que tu sais que je pourrais pas disons dans son entièreté, mais il y a quand même un 10 minutes où il y a pas de son, pas de musique, pas de dialogue, pas rien, là, vraiment zéro zéro son, qui est en langage des signes. Il y a un épisode qui est réalisé parce qu'un des personnages qui est joué par Eric du duo Tim et Eric là, tu sais, c'est un duo qui font des sketchs super absurdes. Un peu ce qui a influencé les appendices, là, des trucs en green screen, vintage, des jokes de VHS, là, c'est vraiment mon dada. Non, mais ça, c'est vraiment bon, là, Tim et Eric, c'est vraiment de l'humour bien particulier. Puis, en fait, Eric, il joue son meilleur ami dans la série, puis il a réalisé un épisode dans la deuxième saison, puis tu vois tout de suite sa signature où c'est complètement absurde, t'as des personnages que... Tu sais, c'est joué quand même réaliste, la série, mais des fois, t'as des personnages qui pop, comme dans cet épisode-là, t'as genre un band de breakdance, genre silencieux avec des masques, puis tu sais, ils ont comme... tu sais, Aziz, il y a une conversation avec eux, mais ils répondent pas parce qu'ils ont leur masque, puis dans leur sketch, eux autres, ils parlent jamais, tu sais. Ils sont juste comme tout le temps personnages, mais tu sais, c'est des moments super weird à travers une série qui est quand même réaliste au niveau des émotions, puis de comment les relations amoureuses sont décrites. Il y a un super épisode où c'est lui qui essaie de se trouver une date, il revient à New York, puis il essaie de se trouver une date sur une application de charme, à la Tinder ou à la whatever, là. Donc l'épisode est construit c'est comme un épisode choral où tu passes d'une date à une autre. Tu sais, il y a des dates qui vont se rendre plus loin que d'autres. Il y en a qui vont s'arrêter assez courtes. Il y en a qui vont être awkward. Puis tu switches d'une date à une autre. Puis tu sais, c'est vraiment réaliste la façon que c'est fait. Mais c'est tout ce qui peut mal arriver dans des dates. Tu vois à travers toutes ces dates-là malaisantes. Parce que lui, il va être drôle. Il va être comique avec les filles. Parce qu'il y a des passions qui sont pas connexes avec les filles. Donc, il est comme super attachant. Mais il est super attachant. Les émotions sont réelles. Pis t'as tout le temps la touche d'humour qui frappe à la bonne place là. Donc ouais, la saison 2, c'était une belle surprise. Parce que c'est ça, j'avais fini, j'avais aimé ça, puis j'étais comme satisfait, mais sans plus là. J'attendais pas avec impatience la deuxième. Puis là, parce que j'ai rien écouté, hein, on sait, y a quasiment rien à écouter dans la vie. Non, ma année, je sais juste, ah, oh, je vais popper le premier là, juste voir où le personnage est rendu. Puis finalement, c'est comme... C'était super belle surprise, je regrette pas d'être tombé dedans là. Tu
No
sais, puis au contraire,
regrets.
il y a no regret, not even one letter. Puis tu sais, sinon il y avait Stranger Things d'un autre côté, que ça j'attendais avec impatience. Tu sais, que je peux vous décrire rapidement, c'est comme
Parce que
c'est un
là,
peu
t'as
un
pas
more...
aimé. Parce que t'as dit que.
Ah bah.
Là, t'as dit la saison 2 de Master of None, c'est vraiment fait pour moi. Il y a des jokes de VHS, il y a du noir et blanc.
Ben, c'est pas de joke de VHS, mais c'est des jokes absurdes à la Eric de Tim et Eric, là.
Ok, ben,
C'est
pardon,
plus...
mais. Mais l'humour absurde, ça, c'est fait pour moi. Mais là, Stranger Things, là. Quand je vois
Ben,
quand je vois
Stranger
les
Things...
images, puis je vois la bande-annonce de ça, là, moi, je pense à Rémi
Ben non,
Bichette,
mais
là.
moi je trippe à fond, le Stranger Things, puis la saison 2 m'a ultra satisfait. Puis tu sais, la grosse critique de Stranger Things, c'est trop, il y a trop de références, c'est trop un mishmash de références, mais en même temps, c'est ça Stranger Things, tu sais. C'est comme, tu sais, le monde, il reproche un peu ce que la série fait, puis ce que la série essaie d'être, là, tu sais.
Ouais.
Je trouve ça
Plus
un peu weird, parce
plutôt que de le
que...
critiquer pour comme l'exécution ou c'est sa qualité,
Ouais,
juste
exact, c'est juste comme, oh non, mais c'est juste un collage de plein de
c'est
références, tu
ça.
sais. Mais tu sais, en même temps, là, si tu construis une histoire originale, tripante, avec un collage de plein d'affaires, là, tu sais, rendu là, Harry Potter, là, c'est un peu ça, là, aussi, là. J.K. Rowling a créé un gros univers avec plein de mythologies, plein de références à plein de trucs, tu sais, tu les vois, là, les références de J.K. Rowling dans Harry Potter, puis les gens embarquent quand même,
wow,
Stranger
wow,
Things, ben...
Wow, wow.
Non, non, mais ben, tu sais ce que je veux dire, là.
Oh,
ben,
oui.
Tu sais, puis à côté, Stranger Things, il y en a qui le critiquent pour ça, mais c'est comme, ben, OK, ben, si t'aimes pas ça, c'est correct, là. Mais tu sais, c'est ça le trip de Stranger Things aussi, c'est... Ça se passe en 83, la première saison, 84, la deuxième. C'est dans les grosses années, tu sais, en 84, c'était Ghostbusters, Gremlins, Nightmare on Elm Street, c'est des grosses années de pop culture, fait que c'est... C'est sûr, là, c'est ça, Stranger Things. Puis c'est construit, ça se base sur les romans de Stephen King, sur l'histoire de Stephen King. C'est comme un mélange de plein d'affaires, puis c'est ça le plaisir de Stranger Things. Mm-hmm. Tu sais, la saison 2, c'est un peu... Puis ça a l'air négatif, de la façon dont je vais le dire, mais c'est un more of the same. Mm-hmm. Tu sais, souvent, quand tu dis ça, c'est négatif, mais dans là, c'est plus dans le sens que si t'as aimé la 1, la 2, elle suit direct, puis c'est ça continue dans cet univers-là, puis dans... Il y a des nouveaux, une couple de nouveaux personnages qui arrivent, puis il y a peut-être quelques devices narratifs qui ont utilisé dans saison 1 que là j'ai trouvé un tantinet répétitif, là. Tu sais, dans la saison 1, pour bon, il y a le mur avec les lumières de Noël, là, qui avait été fait, ben il y a peut-être un équivalent de ça dans la saison 2, où la maison avait encore en bordel. Fait que tu sais, il y a comme quelques trucs qui se ressemblent, mais tu sais, un coup que tu passes à travers ça, c'est pas trop grave, me semble. Moi, j'ai eu vraiment du fun encore à regarder ça, puis j'ai comme hâte d'en voir plus, là, parce que c'est ça livre exactement ce que ça promet, tu sais. Si t'aimes pas les trucs plein bourrés de références, puis tu veux du stock ultra deep, ultra original, ben, va voir ailleurs, tu sais. Mais tu sais, rendu là, même, je recommande Master of None si tu veux du contenu vraiment original puis vraiment out there, tu sais. Va voir plus Master of None, mais en même temps, tu peux être satisfait des deux, là. Regarde, prenez l'exemple sur moi, j'ai adoré les deux.
mais j'imagine que ça, c'est vraiment pas la même partie de toi qui est satisfaite quand t'écoutes l'un puis t'écoutes l'autre, parce que les deux séries ont quand même l'air très distinctes, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça reste que c'est des trucs qui sont, tu sais, je dirais ça de même, là, mais un peu pour notre génération, là, notre génération de cinéphiles, puis ça reste des trucs très très ancrés dans aujourd'hui, là. C'est parce que même si Stranger Things, ça se passe en 83 puis 84, c'est fait pour la génération pop culture, qui tripe pop culture, puis tu sais, qui les geeks, là, tu sais, c'est vraiment fait pour cette crowd-là, là. Mais effectivement, les deux, ça répond à deux trucs complètement différents. Master of None, c'est des grosses surprises à chaque épisode. Puis à côté de ça, ben, t'as Stranger Things, que c'est juste réconfortant, là. C'est comme se retaper Back to the Future ou Gremlins, là. C'est comme, tu sais, t'es dans des pantoufles confortables, là. Je veux dire, je serais pas bouleversé par Stranger Things. Ça, c'est pas quelque chose qui a changé ma vie, mais j'aime vraiment ça, tu sais. J'ai vraiment du fun en regardant ça. Puis je suis satisfait à fond, là. Ouais.
Est-ce que t'as acheté le vinyle, voilà, de la trame sonore?
J'ai la vinyle de la saison 1, oui.
OK. Donc, on sait quoi t'offrir pour Noël. Mais là, la question qui tue, Rémi Fréchette.
Ouais.
Qu'est-ce que t'attends le plus
entre
Stranger Things saison 3 et Ready Player One?
Oh my god! Ben ouais, c'est Ready Player One, j'ai vraiment hâte, là. Tu sais, Spielberg, là, qui fait encore cette année deux films... on le sait tous que Ready Player One est sûrement tourné il y a 2 ans parce que la post-prod doit être insane, là.
Ouais.
Mais, tu sais, comme l'année où il a sorti War of the World puis Munich, ou l'année où il a sorti Jurassic Park puis Schindler's List, ben là, cette année, il y a Ready Player One puis The Post, c'est comment ça s'appelle son nouveau...
The Post, ça sort dans comme un mois, là.
Ouais, mais Ready Player One, ça va faire de l'année aussi, en décembre, je pense.
Non, Ready Player One, c'est genre dans prochain, un mois. Non?
C'est l'été prochain. Mais ouais, les bandes annonces sont là depuis genre 6 mois, là.
Ouais, parce qu'ils veulent construire le boss. Mais je pense que c'est l'été prochain que ça sort, Ready Player One. On vérifiera pour être sûr. Mais c'est quand même cool parce que, tu sais, Spielberg, dans un sens, tu parlais de Stephen King, mais Spielberg aussi.
Ah, c'est en mars. Je viens de regarder, j'ai sneaké sur Internet. Puis,
ok.
En mars. Okay. Mais tu sais, reste que c'est quand même proche, là.
Ouais,
pour
sortir
deux films comme ça, là.
Mais c'est ça.
C'est
drôle pour Spielberg de faire ce film-là parce que c'est un peu comme. Justement, on parle beaucoup des années 80, puis pour ceux qui ne savent pas, Ready Player One, c'est basé sur un roman qui est vraiment une espèce, justement, encore une fois, un gros hommage, puis un gros mélange, puis ça se passe dans un monde virtuel où on peut avoir tous les personnages marquants, puis ben, des années 80, là, pour ce film-là, ce roman-là, cette histoire-là. Et T'sais, parce que mine de rien, c'est un peu comme Spielberg qui va faire une adaptation d'un truc hommage à Spielberg, entre autres, là, t'sais.
Ouais, tu sais, Spielberg est quand même à la source de la pop culture. Tu vois comme
C'est ça,
la
c'est fait que...
DeLorean dans la bande-annonce, puis tu sais, c'est comme il était producteur de Back to the Future, puis
Ouais.
Back to the Future transpire Spielberg là, c'est vraiment
Ouais.
sa griffe est dessus là. C'est comme oh, ouais, c'est sûr qu'il se fait beaucoup de références, il doit faire beaucoup de références à lui-même, puis mais en même temps, qui d'autre pour faire un film comme ça que je sais pas, en tout cas Spielberg, je trouve ça moi je chiale pas là, je suis vraiment content que ça soit
Ouais,
lui là,
ouais.
c'est il a tous les pouvoirs, puis tu sais, parce qu'en même temps là, comme tu sais, avec toutes les licences qu'il a fallu qu'il aille chercher, c'est comme tu
Ça
dis
prend
pas non
quelqu'un
à
de
Steven
rassembleur, là,
Spielberg
c'est
là,
ça.
tu dis pas non à Steven Spielberg avec, tu sais, c'est comme c'est vraiment hot là, tu sais, il y a peut-être eu un Edgar Wright qui aurait pu en faire une adaptation, il y en a une couple là qui aurait peut-être pu, mais Spielberg c'est comme il est intouchable là, tu peux pas refuser une licence, hey non, prends pas Freddy, c'est tellement sacré, non non, Freddy il est dans la bande-annonce puis manger de la merde, c'est Spielberg là, tu sais.
Ouais, j'avoue que pour ça, j'imagine que son nom, ça l'a aidé à vraiment. Tu t'imagines le casse-tête juridique, là, comment ça doit être complexe.
Ouais.
En fait, c'est sûrement pour ça que le film, ça a pris autant de temps à tourner, puis que ça a été aussi compliqué. Ça devait être vraiment comme une question de droit, là, tu sais, parce que c'est déjà impressionnant quand on voit des films comme justement Justice League, puis comme les Avengers, tu sais, parce que c'est le genre de truc que
Ouais.
quand on était jeune, on pensait jamais que ça serait possible, tu sais. Puis aussi, comme les effets spéciaux sont vraiment rendus meilleurs qu'avant, là. Mais tu sais, là, un truc où t'as vraiment comme des personnages de toutes sortes de studios, puis même de pays différents. Tu sais, c'est tout un casse-tête. Donc, moi, je suis pas mal hâte de voir ça. C'est quand même l'air cool. Mais je
Ça a l'air
reste.
cool, ouais.
Ouais, mais je suis un peu sceptique, là, j'avoue. Mais je ne demande qu'à être surpris. Il y a
Ben,
comme.
moi aussi, en fait, puis je vais t'avouer parce que la bande-annonce dit rien de l'histoire, c'est vraiment un teaser. Je trouve ça un peu chaotique, là, le teaser, là, justement. Il y a une couple de scènes où tu vois qu'est-ce qui se passe, sinon c'est comme des courses de trucs avec plein d'affaires qui revolent partout, là. J'ai quasiment un feeling Michael Bay plus que Spielberg dans quelques séquences de la bande-annonce. Mais j'ai l'impression que ça va être vraiment cool là, mais
Moi,
on dirait que je suis comme
j'ai.
pas capable de me hyper tant que ça avec le teaser qu'on a vu, tu sais. Il
Moi,
y a quelques trucs que je trouve
j'ai.
vraiment malades, mais
Ouais. Moi, j'ai plus le vibe Tron Legacy. L'espèce de truc
ouais, t'as raison, t'as
virtuel
raison.
cool.
Hey, mais sais-tu ce que j'attends plus encore que Ready Player One ou Stranger Things 2? The Disaster Artist. Merci beaucoup, bonsoir, c'était notre point final, mais The Disaster Artist, j'ai déjà acheté mes billets pour le cinéma du parc. Ils font une projection spéciale avec Disaster Artist suivi de The Room. Puis en fait, je pense qu'ils ont acheté une séance. Fait que si vous êtes intéressé, il y a cette chance-là de le voir en décembre. Ça va être insane, là. Ça, en tout cas.
C'est son petit rire, là.
What a story, Mark.
Ah ouais, non, ça va être cool. Fait que, ok, c'était notre point de vue cette semaine. On va aller se quitter. Là, hey, là, t'as-tu vu les films qui prennent l'affiche? Tant c'est ça arrête pas, en fait. Puis
Ouais, il y en a vraiment beaucoup, là.
je m'en veux de pas pouvoir tout voir. Mais on va quand même aller écouter la
Ben, moi, je parle. Attends,
bande-annonce.
attends,
Oui.
j'ai une suggestion. On pourrait peut-être mettre la bande-annonce de The Raid 2 à la fin.
Ça devrait être
Ok,
la bande-annonce à tous les épisodes, en fait.
non. Ouais, c'est vrai qu'on aurait closé tous les podcasts avec ça.
Non, mais ça sort bientôt, puis c'est un gros succès. Et notre collègue Benjamin, il l'a vu, il l'a adoré. Il en parle comme de son film de
Oh my
l'année.
God.
Il en parle comme de
Ok.
son film de l'année. Et je parle
Si
bien
Benjamin
sûr.
a aimé ça, là, je suis
Ouais.
comme curieux, là.
Je parle bien sûr de Lady Bird de Greta Gerwig, son premier film
Ah,
en tant que
oui, ok.
réalisatrice. Donc j'ai très hâte de voir ça. On va aller entendre, écouter cette bande-annonce. Donc c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landriau et j'étais avec mon collègue.
Rémi Fréchette, et pas de Pascal, mais en tout cas, prochaine fois. Ok, bye!
I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like
How
New
in the world
York,
did I raise such
or
a
at least
snob?
Connecticut or New Hampshire,
Well,
where writers live in the
get
woods.
into those schools anyway.
Mom!
You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything.
Lady Bird, is that your given name?
Yeah.
Why is it in quotes?
I gave it to myself. It's given to me by me.
Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks.
What she did was very baller. It was very anarchist.
Put the magazine back!
She has a big heart, your mom.
She's warm, but she's also kind of scary.
You can't be scary and warm.
I think you can. Your mom is. So, you're not interested in any Catholic colleges?
No way. I want schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in.
You definitely couldn't get in.
Does Mom hate me?
If you're tired, we can sit down.
I'm not tired.
You were dragging your feet.
You are so infuriated.
Please stop yelling.
I'm not yelling. Oh, it's perfect.
Do you love it?
You both have such strong personalities.
When is a normal time to have sex?
You're having sex?
I'm ready. Just wanted it to be special.
Why? You're gonna have so much unspecial sex in your life.
We're afraid that we will never escape our past.
Whatever we give you, it's never enough. It's never enough.
It is enough.
We're afraid of what the future will bring. We're afraid we won't be loved.
You can't do anything unless you're the center of attention.
We won't be liked.
Yeah, well, you know your mom's tits, they're totally fake.
She made one bad decision at 19.
Two bad decisions.
And we won't succeed.
I want you to be the very best version of yourself that you can be.
What if this is the best version? What I'd really like is to be on Math Olympiad.
But math isn't something you're terribly strong in.
That we know of yet.